Une période heureuse succéda au drame. Hélas, un sentiment de provisoire subsistait. Il tenait à mon âge et à ma nature veule. Je n'avais de volonté pour rien, ni pour fuir Marthe, qui peut-être m'oublierait et retournerait au devoir, ni pour pousser Jacques dans la mort. Notre union était donc à la merci de la paix, du retour définitif des troupes. Qu'il chasse sa femme, elle me resterait. Qu'il la garde, je me sentais incapable de la lui reprendre de force. Notre bonheur était un château de sable. Mais, ici la marée n'étant pas à heure fixe, j'espérais qu'elle monterait le plus tard possible. Maintenant c'est Jacques, charmé, qui défendait Marthe contre sa mère, mécontente du retour à J. Ce retour, l'aigreur aidant, avait du reste éveillé chez Madame Grangier quelques soupçons. Autre chose lui paraissait suspect. Marthe refusait d'avoir des domestiques, au grand scandale de sa famille et encore plus de sa belle famille. Mais que pouvaient parents et beaux-parents contre Jacques devenu notre allié grâce aux raisons que je lui donnais par l'intermédiaire de Marthe? C'est alors que J ouvrit le feu sur elle. Les propriétaires affectaient de ne plus lui parler. Personne ne la saluait. Seuls les fournisseurs étaient professionnellement tenus à moins de morgue. Aussi, Marthe, sentant quelquefois le besoin d'échanger des paroles, s'attardait dans les boutiques. Lorsque j'étais chez elle, si elle s'absentait pour acheter du lait et des gâteaux, et qu'au bout de 5 minutes, elle ne fut pas de retour, l'imaginant sous un tramway, je courais à toutes jambes jusque chez la crémière ou le pâtissier. Je l'y trouvais causant avec eux. Fou de m'être laissé prendre à mes angoisses nerveuses, aussitôt dehors, je m'emportais. Je l'accusais d'avoir des goûts vulgaires, de trouver un charme à la conversation des fournisseurs. Ceux-ci, dont j'interrompais les propos, me détestaient. L'étiquette des cours est assez simple, comme tout ce qui est noble, mais rien n'égale en énigme le protocole des petites gens. Leur folie des préséances se fonde d'abord sur l'âge. Rien ne les choquerait plus que la révérence d'une vieille duchesse à quelque jeune prince. On devine la haine du pâtissier de la crémière à voir un gamin interrompre leurs rapports familiers avec Marthe. Ils lui eussent à elle trouvé 1000 excuses à cause de ses conversations. Les propriétaires avaient un fils de 22 ans. Il vint en permission. Marthe l'invita à prendre le thé. Le soir, nous entendîmes des éclats de voix. On lui défendait de revoir la locataire. Habitué à ce que mon père me mit son veto à chacun de mes actes, rien ne m'étonna plus que l'obéissance du dadais. Le lendemain, comme nous traversions le jardin, il bêchait. Sans doute était-ce un pinsom. Un peu gêné malgré tout, il détourna la tête pour ne pas avoir à dire bonjour. Ses escarmouches peinaient Marthe. Assez intelligente et assez amoureuse pour se rendre compte que le bonheur ne réside pas dans la considération des voisins, elle était comme ces poètes qui savent que la vraie poésie est chose maudite, mais qui, malgré leur certitude, souffrent parfois de ne pas obtenir les suffrages qu'ils méprisent. Les conseils municipaux jouent toujours un rôle dans mes aventures. Monsieur Marin, qui habitait en dessous de chez Marthe, vieillard à barbe grise et de stature noble, était un ancien conseiller municipal de J. Retiré dès avant la guerre, il aimait servir la patrie lorsque l'occasion se présentait à portée de sa main. Se contentant de désapprouver la politique communale, il vivait avec sa femme, ne recevant et ne rendant de visite qu'aux approches de la nouvelle année. Depuis quelques jours, un remue-ménage se faisait au-dessous, d'autant plus distinct que nous entendions de notre chambre les moindres bruits du rez-de-chaussée. Des frotteurs vinrent. La bonne, aidée par celle du propriétaire, astiquait l'argenterie dans le jardin, ôtaient le vert de gris des suspensions de cuivre. Nous sûmes par la crémière qu'un raout surprise se préparait chez les marins sous un mystérieux prétexte. Madame Marin était allée inviter le maire et le supplier de lui accorder 8 litres de lait. Autoriserait-elle aussi la marchande à faire de la crème ? Les permis accordés, le jour venu, un vendredi. Une quinzaine de notables parurent à l'heure dite avec leurs femmes, chacune fondatrice d'une société d'allaitement maternel ou de secours aux blessés, dont elle était la présidente et les autres sociétaires. La maîtresse de cette maison, pour faire genre, recevait devant la porte. Elle avait profité de l'attraction mystérieuse pour transformer son raout en pique-nique. Toutes ces dames prêchaient l'économie et inventaient des recettes. Aussi, leur douceur était-elle des gâteaux sans farine, des crèmes au lichen, enfin, etc. Chaque nouvelle arrivante disait à Madame Marin « Oh, ça ne fait pas de mine, mais je crois que ce sera bon tout de même. » Monsieur Marin, lui, profitait de ce raout pour préparer sa rentrée politique. Or, la surprise, c'était Marthe et moi. La charitable indiscrétion d'un de mes camarades de chemin de fer, le fils d'un des notables, me l'apprit. Jugez de ma stupeur quand je sus que la distraction des marins était de se tenir sous notre chambre vers la fin de l'après-midi et de surprendre nos caresses. Sans doute y avaient-ils pris goût et voulaient-ils publier leur plaisir. Bien entendu, les marins, gens respectables, mettaient ce dévergondage sur le compte de la morale. Ils voulaient faire partager leur révolte pour tout ce que la commune comptait de gens comme il faut. Les invités étaient en place. Madame Marin me savait chez Marthe et avait dressé la table sous la chambre. Elle piaffait. Elle eût voulu la canne du régisseur pour annoncer le spectacle. Grâce à l'indiscrétion du jeune homme, qui trahissait pour mystifier sa famille et, par solidarité d'âge, nous gardâmes le silence. Je n'avais pas osé dire à Marthe le motif du pique-nique. Je pensais au visage décomposé de Madame Marin, les yeux sur les aiguilles de l'horloge et à l'impatience de ses hôtes. Enfin, vers 7 heures, les couples se retirèrent bredouille, traitant tout bas les marins d'imposteurs, et le pauvre monsieur Marin, âgé de 70 ans, d'arriviste. Ce futur vous conseiller vous promettait monts et merveilles, et n'attendait même pas d'être élu pour manquer à ses promesses. En ce qui concernait Madame Marin, ces dames virent dans le raout un moyen avantageux pour elle de se fournir du dessert. Le maire, en personnage, avait paru juste quelques minutes. Ces quelques minutes et les 8 litres de lait firent chuchoter qu'il était du dernier bien avec la fille des marins, institutrice à l'école. Le mariage de Mademoiselle Marin avait jadis fait scandale, paraissant peu digne d'une institutrice, car elle avait épousé un sergent de ville. Je poussai la malice jusqu'à leur faire entendre ce qu'ils eussent souhaité faire entendre aux autres. Marthe s'étonna de cette tardive ardeur. Ne pouvant plus y tenir et au risque de la chagriner, je lui dis quel était le but du raout. Nous en rîmes ensemble aux larmes. Madame Marin, peut-être indulgente si j'eusse servi ses plans, ne nous pardonna pas son désastre. Il lui donna de la haine, mais elle ne pouvait l'assouvir, ne disposant plus de moyens et n'osant user de lettres anonymes. Nous étions au mois de mai. Je rencontrais moins Marthe chez elle et n'y couchais plus que si je pouvais inventer chez moi un mensonge pour y rester le matin. Je l'inventais 1 ou 2 fois la semaine. La perpétuelle réussite de mon mensonge me surprenait. En réalité, mon père ne me croyait pas. Avec une folle indulgence, il fermait les yeux à la seule condition que ni mes frères ni les domestiques ne l'apprissent. Il me suffisait donc de dire que je partais à 5 heures du matin, comme le jour de ma promenade à la forêt de Sénard. Mais Ma mère ne préparait plus de panier. Mon père supportait tout, puis, sans transition, ce cabran me reprochait ma paresse. Ces scènes se déchaînaient et se calmaient vite, comme les vagues. Rien n'absorbe plus que l'amour. On n'est pas paresseux parce que, étant amoureux, on paresse. L'amour sent confusément que son seul dérivatif réel est le travail. Aussi le considère-t-il comme un rival et il n'en supporte aucun. Mais l'amour est paresse bienfaisante, comme la molle pluie qui féconde. Si la jeunesse est niaise, c'est faute d'avoir été paresseuse. Ce qui infirme nos systèmes d'éducation, c'est qu'ils s'adressent aux médiocres à cause du nombre. Pour un esprit en marche, la paresse n'existe pas. Je n'ai jamais plus appris que dans mes longues journées qui, pour un témoin, eussent semblé vides et où j'observais mon cœur novice comme un parvenu observe ses gestes à table. Quand je ne couchais pas chez Marthe, c'est-à-dire presque tous les jours, nous nous promenions après dîner le long de la Marne jusqu'à 11 heures. Je détachais le canot de mon père, Marthe ramait, moi, étendu, j'appuyais ma tête sur ses genoux. Je la gênais. Soudain, un coup de rame me cognant me rappelait que cette promenade ne durerait pas toute la vie. L'amour veut faire partager sa béatitude. Ainsi, une maîtresse de nature assez froide devient caressante, nous embrasse dans le cou, invente mille agaceries si nous sommes en train d'écrire une lettre. Je n'avais jamais tel désir d'embrasser Marthe que lorsqu'un travail la distrayait de moi. Jamais tant envie de toucher ses cheveux, de la décoiffer, que quand elle se coiffait. Dans le canot, je me précipitais sur elle, la jonchant de baisers, pour qu'elle lâchât ses rames et que le canot dérivât, prisonnier des herbes, des nénuphars blancs, et incapable de se contenir, alors que me poussait surtout la manie de déranger, si forte. Puis nous amarrions le canot derrière les hautes touffes. Ma crainte d'être visible ou de chavirer me rendait nos ébats mille fois plus voluptueux. Aussi ne plaignais-je point de l'hostilité des propriétaires qui rendaient ma présence chez Marthe très difficile. Ma soi-disant idée fixe de la posséder comme ne l'avait pu posséder Jacques, d'embrasser un coin de sa peau après lui avoir fait jurer que jamais d'autres lèvres que les miennes ne s'y étaient mises, n'était que du libertinage. Me l'avouais-je ? Tout amour comporte sa jeunesse, son âge mûr et sa vieillesse. Étais-je à ce dernier stade où déjà l'amour ne me satisfaisait plus sans certaines recherches? Car si ma volupté s'appuyait sur l'habitude, elle s'avivait de ces mille riens, de ces légères corrections infligées à l'habitude. Aussi, et n'est-ce pas d'abord dans l'augmentation des doses, qui vite deviendrait mortelle, qu'un intoxicté trouve l'extase, mais dans le rythme qu'il invente, soit en changeant ses heures, soit en usant de supercherie pour dérouter l'organisme. J'aimais tant cette rive gauche de la Marne que je fréquentais l'autre, si différente afin de pouvoir contempler celle que j'aimais. La rive droite est moins molle, consacrée aux maraîchers, aux cultivateurs, alors que la mienne l'est aux oisifs. Nous attachions le canot à un arbre, allions nous étendre au milieu du blé. Notre égoïsme dans sa cachette oubliait le préjudice, sacrifiant le blé au confort de notre amour, comme nous y sacrifions Jacques. Un parfum de provisoire excitait mes sens. D'avoir goûté à des joies plus brutales, plus ressemblantes à celles qu'on éprouve sans amour avec la première venue, affadissait les autres. J'appréciais déjà le sommeil chaste, libre, le bien-être de se sentir seul dans un lit aux draps frais. J'alléguais des raisons de prudence pour ne plus passer de nuit chez Marthe. Elle admirait ma force de caractère. Je redoutais aussi l'agacement que donne une certaine voix angélique des femmes qui s'éveillent et qui, comédiennes de race, semblent chaque matin sortir de l'au-delà. Je me reprochais mes critiques, mes feintes, passant des jours à me demander si j'aimais Marthe plus ou moins que naguère. Mon amour sophistiquait tout. De même que je traduisais faussement les phrases de Marthe, croyant leur donner un sens plus profond, j'interprétais ses silences. Ai-je toujours eu tort? Un certain choc qui ne peut se décrire, nous prévenant que nous avons touché juste. Mes jouissances, mes angoisses étaient plus fortes. Couché auprès d'elle, l'envie qui me prenait, d'une seconde à l'autre, d'être couché seul, chez mes parents, me faisait augurer l'insupportable d'une vie commune. Et d'autre part, je ne pouvais imaginer de vivre sans Marthe. Je commençais à connaître le châtiment de l'adultère. J'en voulais à Marthe d'avoir, avant notre amour, consenti à meubler la maison de Jacques à ma guise. Ces meubles me devinrent odieux, que je n'avais pas choisis pour mon plaisir, mais afin de déplaire à Jacques. Je m'en fatiguais sans excuse. Je regrettais de n'avoir pas laissé Marthe les choisir seule. Sans doute m'eussent-ils alors déplu, mais quel charme ensuite de m'y habituer par amour pour elle. J'étais jaloux que le bénéfice de cette habitude revint à Jacques. Marthe me regardait avec de grands yeux naïfs lorsque je lui disais amèrement « Oh, j'espère que, quand nous vivrons ensemble, nous ne garderons pas ces meubles. » Elle respectait tout ce que je disais. Croyant que j'avais oublié que ces meubles venaient de moi, elle n'osait me le rappeler. Elle se lamentait intérieurement de ma mauvaise mémoire. Dans les premiers jours de juin, Marthe reçut une lettre de Jacques où, enfin, il ne l'entretenait pas que de son amour. Il était malade. On l'évacuait à l'hôpital de Bourges. Je ne me réjouissais pas de le savoir malade, mais qu'il eût quelque chose à dire me soulageait. Passant par Gilles le lendemain ou le surlendemain, il suppliait Marthe qu'elle guettât son train sur le quai de la gare. Marthe me montra cette lettre. Elle attendait un ordre. L'amour lui donnait une nature d'esclave. Aussi, en face d'une telle servitude préambulaire, avais-je du mal à ordonner ou défendre. Selon moi, mon silence voulait dire que je consentais. Pouvais-je vraiment l'empêcher d'apercevoir son mari pendant quelques secondes? Elle garda le même silence, donc, par une espèce de convention tacite, je n'allais pas chez elle le surlendemain. Le surlendemain, un commissionnaire m'apporta chez mes parents un mot qu'il ne me devait remettre qu'à moi. Il était de Marthe. Elle m'attendait au bord de l'eau. Elle me suppliait de venir si j'avais encore de l'amour pour elle. Je courus jusqu'au banc sur lequel Marthe m'attendait. Son bonjour, si peu en rapport avec le style de son billet, me glaça. Je crus son cœur changer. Simplement, Marthe avait pris mon silence de l'avant-veille pour un silence hostile. Elle n'avait pas imaginé la moindre convention tacite. À des heures d'angoisse succédait le grief de me voir en vie, puisque seule la mort eût dû m'empêcher de venir hier. Ma stupeur ne pouvait se feindre. Je lui expliquais ma réserve, mon respect pour ses devoirs envers Jacques malade. Elle me crut à demi. J'étais irrité. Je faillis lui dire, pour une fois que je ne mens pas. Nous pleurâmes. Mais ces confuses parties d'échecs sont interminables, épuisantes, si l'un des deux n'y met bon ordre. En somme, l'attitude de Marthe envers Jacques n'était pas flatteuse. Je l'embrassai, la berçai. Oh, le silence, dis-je, ne nous réussit pas. Nous nous promîmes de ne rien nous sceller de nos pensées secrètes, moi la plaignant un peu de croire que c'est chose possible. À J, Jacques avait cherché des yeux Marthe, puis le train passant devant leur maison, il avait vu les volets ouverts. Sa lettre la suppliait de le rassurer, il lui demandait de venir à Bourges. « Il faut que tu partes, dis-je, de façon que cette simple phrase ne sentit pas le reproche. « J'irai, dit-elle, si tu m'accompagnes. » C'était pousser trop loin l'inconscience. Mais ce qu'exprimaient d'amour ces paroles, ces actes les plus choquants, me conduisaient vite de la colère à la gratitude. Je me cabrais et je me calmais. Je lui parlais doucement, ému par sa naïveté. Je la traitais comme un enfant qui demande la lune. Je lui représentais combien il était amoral qu'elle se fît accompagner par moi. Que ma réponse ne fût pas orageuse, comme celle d'un amant outragé, sa portée s'en accrut. Pour la première fois, elle m'entendait prononcer le mot de « morale ». Ce mot vint à merveille, car, si peu méchante, elle devait bien connaître des crises de doute, comme moi, sur la moralité de notre amour. Sans ce mot, elle eût pu me croire amorale, étant fort bourgeoise, malgré sa révolte contre les excellents préjugés bourgeois. Mais au contraire, puisque pour la première fois je la mettais en garde, c'était une preuve que, jusqu'alors, je considérais que nous n'avions rien fait de mal. Marthe regrettait cette espèce de voyage de noces scabreux. Elle comprenait maintenant ce qu'il y avait d'impossible. « Du moins, dit-elle, permets-moi de ne pas y aller. » Ce mot de morale, prononcé à la légère, m'instituait son directeur de conscience. J'en usais comme ces despotes qui se grisent d'un pouvoir nouveau. La puissance ne se montre que si l'on en use avec injustice. Je répondis donc que je ne voyais aucun crime à ce qu'elle n'alla pas à Bourges. Je lui trouvai des motifs qui la persuadèrent. Fatigue du voyage, proche convalescence de Jacques. Ces motifs l'innocentaient, sinon aux yeux de Jacques, du moins vis-à-vis de sa belle famille. À la force d'orienter Marthe dans un sens qui me convenait, je la façonnais peu à peu à mon image. C'est de quoi je m'accusais et de détruire sciemment notre bonheur. Qu'elle me ressembla et que ce fût mon œuvre me ravissait et me fâchait. J'y voyais une raison de notre entente. J'y discernais aussi la cause de désastres futurs. En effet, je lui avais peu à peu communiqué mon incertitude qui, le jour des décisions, l'empêcherait d'en prendre aucune. Je la sentais comme moi, les mains moites, espérant que la mère épargnerait le château de sable, tandis que les autres enfants s'empressent de bâtir plus loin. Il arrive que cette ressemblance morale déborde sur le physique. Regards, démarches, plusieurs fois des étrangers nous prirent pour frères et sœurs. C'est qu'il existe en nous des germes de ressemblance que développe l'amour. Un geste, une inflexion de voix, tôt ou tard, trahissent les amants les plus prudents. Il faut admettre que, si le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, c'est que celle-ci est moins raisonnable que notre cœur. Sans doute sommes-nous tous des narcisses, aimant et détestant leur image, mais à qui tout autre est indifférente. C'est cet instinct de ressemblance qui nous mène dans la vie, nous criant « halte » devant un paysage, une femme, un poème. Nous pouvons en admirer d'autres sans ressentir ce choc. L'instinct de ressemblance est la seule ligne de conduite qui ne soit pas artificielle. Mais, dans la société, seuls les esprits grossiers semblent ne point pécher contre la morale, poursuivant toujours le même type. Ainsi, certains hommes s'acharnent sur les blondes, ignorant que souvent les ressemblances les plus profondes sont les plus secrètes.